Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de la Grande Table, si vous nous rejoignez maintenant. Aujourd'hui, Antoine, vous le savez peut-être, nous allons libérer nos émotions avec notre invité Antonio Damasio, professeur de neurosciences, de psychologie et de philosophie, directeur du Brain and Creativity Institute à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Il est notamment l'auteur de L'Erreur de Descartes et de Spinoza avait raison. Spécialiste mondialement connu et reconnu, grand vulgarisateur aussi, depuis une vingtaine d'années, il travaille sur la place des émotions dans notre prise de décision, rappelant les nombreuses interactions entre le cœur et la raison, réfutant le dualisme cartésien, empruntant à Spinoza ses concepts pour définir une nouvelle neurobiologie du sentiment et du comportement social. Comment utilisons-nous nos émotions pour être ou devenir ce que l'on est ? Pionnier en la matière, avec l'ordre des choses, chez Odile Jacob toujours, il poursuit sa quête et traite de la vie, de ses origines, qu'il relie à l'émergence de l'esprit et à la fabrique de la culture. En faisant appelle à un concept biologique, l'homéostasie, qu'il traduit en processus vital et applique à la culture. Petite mise en bouche, extrait de votre livre, Antonio Damasio. Les humains voulaient trouver le remède aux tourments de leur cœur, réconcilier les contradictions générées par la souffrance, la peur, la colère et la poursuite du bien-être. Ils se sont donc mis en quête de sources d'émerveillement et de sensations fortes. Ils ont découvert la musique, la danse, la peinture et la littérature. Ils ont poursuivi leurs efforts en élaborant les tumultueuses épopées que sont les croyances religieuses, les questionnements philosophiques ou encore la gouvernance politique. C'est ainsi que notre esprit créateur de culture s'est perpétuellement adapté à la dramaturgie humaine de la naissance jusqu'à la mort. Antonio Damasio, bonjour.
Bonjour.
Et à propos, quelle est votre définition de la vie, Antonio Damasio ?
Ah, c'est quelque chose qu'on doit toujours éviter de définir. On peut la vérifier, c'est mieux. Vous savez que c'était Schrödinger qui, très sagement, a parlé de la vie sans jamais parler des origines de la vie, parce que ça c'était très compliqué. Et il ne voulait pas le faire. Bon, alors, la vie, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans la planète il y a presque 4 milliards d'années et qui, évidemment, vient dans une certaine arrangement de molécules chimiques qui ont cette qualité spéciale, c'est de se perpétuer pendant l'histoire d'une vie dans un certain organisme. Alors, la chose commence et se perpétue. Il y a des chercheurs comme Francisco Varela et Maturana qui ont parlé de autopoïèse, un autre nom compliqué. Comme vous avez déjà parlé d'homéostasie, je peux utiliser un autre nom compliqué.
Vous avez le droit à deux, hein, jusqu'à 13h30. Et après, c'est tout.
C'est tout.
Il faut les expliquer aussi, quand même.
Oui. Mais cette perpétuelle cercle que continue pendant un certain temps avec nous, c'est le temps de notre longévité, avec des êtres très simples comme les bactéries, c'est moins de temps. Mais il y a là, dans cette organisation vitale, une organisation déjà et une intention pas déclarée, parce qu'il n'y a pas d'esprit dans cet arrangement chimique, mais il a une intention de continuer et de continuer dans le futur et de se prolonger en tant que possible.
Précédemment, Antonio Damasio, vous nous avez déjà démontré que l'interaction des sentiments et de la raison doit être prise en compte, qu'elle ne l'était pas suffisamment jusqu'ici, et que sans elle, on ne peut pas comprendre les conflits et les contradictions qui sont au cœur de la condition humaine. Les sentiments, vous les définissez comme la perception des émotions. Les émotions, vous les définissez comme la série de changements qui peuvent se produire dans le corps et le cerveau. Dans Spinoza avait raison, l'un de vos précédents essais, vous avez développé trois catégories d'émotions, les émotions primaires, les sociales et les émotions d'arrière-plan. Dans cette perspective des émotions, vous estimez qu'on a sous-estimé, sous-évalué les sentiments comme éléments moteurs, comme facteurs de motivation dans l'origine de la vie et dans la grande épopée de l'humanité. Pourquoi ? Comment sont-elles aussi ces émotions à l'origine même de la vie ?
Ce n'est pas tellement qu'elles sont à l'origine de la vie, mais qu'elles sont certainement à l'origine de la culture que nous sommes capables de fabriquer. Et c'est une des idées principales dans le nouveau livre, c'est que normalement, quand quelqu'un nous demande quelle est l'origine de la culture, quelle est la raison par laquelle on a construit des systèmes de gouvernance, des systèmes moraux, les arts, la science et la technologie, la réponse est presque toujours que c'est notre incroyable capacité intellectuelle, nos connaissances, notre raisonnement, c'est tout ça qui a permis d'inventer les cultures. Et ma réponse est différente. Ma réponse, c'est qu'il y avait une nécessité de construire, il y avait une nécessité de réponse, et que cette nécessité vient exactement des sentiments. C'est les sentiments de, par exemple, souffrance et douleur qui ont mené les premiers fabricateurs de la culture de trouver une solution. Alors, cette combinaison entre émotion, sentiment et intellect, invention, qui est absolument nécessaire pour expliquer comment la culture commence. Et les sentiments, alors, sont un motivateur d'une réponse, et ils vont donner l'opportunité à l'invention de trouver une réponse qui satisfait le besoin de réduire la douleur, réduire la souffrance.
Et vous donnez très pratiquement l'exemple de la médecine, hein, pour faire court, parce que dans cette fabrique de la culture, vous incluez un ensemble de pratiques et d'idées qui sont le seul fait de l'homme sur la terre. La médecine, vous dites, il y a la douleur du patient et il y a l'empathie du médecin. On n'a pas développé aussi des traitements thérapeutiques juste comme ça, par amour de la science et du côté...
Pour l'amour de l'invention.
Ou pour l'amour de l'invention. Et quand on vous objecte que c'est pas la compassion qui va motiver les industries pharmaceutiques à trouver les traitements nécessaires, vous dites non, certes, mais c'est aussi la poursuite du profit qui est alimentée par d'autres sentiments, l'avidité, le prestige, etc. Voilà. Antoine Mercier.
Oui, alors une question, parce que pourquoi est-ce que, selon vous, ce que vous décrivez comme un peu le début de la vie et la possibilité de son progrès jusqu'à la culture, pourquoi est-ce que ça bloquerait chez les animaux, par exemple? Pourquoi est-ce que cette progression que vous nous dites être celle de l'homme s'arrêterait à un moment donné pour d'autres espèces vivantes?
C'est une belle question, parce que, en effet, quand vous pensez, par exemple, aux bactéries, sont des organismes, ils sont vraiment très compliqués, mais disons qu'ils sont simples par comparaison avec nous, sont des organismes qui ont un métabolisme complexe, ont une chimie complexe, mais ils n'ont pas de noyau. Bon, comme cellules, comme organismes unicellulaires, ils n'ont pas de noyau, ils n'ont pas de système nerveux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un esprit. Alors, ils ont seulement la vie et sa régulation. Sa vie est l'impératif d'homéostasie. Là, il y a quelque chose qui est très puissante, que va commander à cette créature de continuer pendant un certain temps, mais il n'y a pas la possibilité d'invention. Il faut attendre beaucoup de milliards d'années, il faut attendre en effet quelque chose comme 5, les systèmes nerveux commencent vraiment il y a 500 millions d'années. Et ça vous donne quelque chose de très important, une donnée très importante, c'est que la plupart du temps de la vie dans la planète s'est passé sans système nerveux. Sans système nerveux et évidemment sans esprit. Il avait là toutes ses intentions, mais c'était des intentions non déclarées.
Ça, ce sont les sentiments, comme
vous
dites.
Non, c'est pas même les sentiments.
Enfin bon, ce sont les deux, alors.
C'est une série de stratégies qui ont une intention de continuer la vie, mais personne ne le sait. Il n'y a pas d'esprit dans ces organismes qui sont capables de faire tout ça. Alors, quand vous arrivez bien plus tard à des organismes complexes, avec beaucoup de cellules, où il y a un système nerveux, là commence la possibilité de construire quelque chose de nouveau, par exemple de construire des images, comme l'image que j'ai de vous à ce moment et que vous avez de moi. Il y a une configuration que votre système nerveux est capable de faire. Il fait ça avec des cartes visuelles par exemple, cartes auditives, et avec ça on entre dans un monde complètement différent, un monde que va nous donner l'esprit, que va nous donner la possibilité d'avoir des connaissances de ce qui se passe autour de nous et d'avoir une connaissance de ce qui se passe dans notre propre corps. Parce que les sentiments, d'une façon très simple, sont des portraits de l'état de la vie dans notre organisme.
Excusez-moi, mais il semble que vous n'avez pas peut-être répondu complètement à la question de savoir pourquoi est-ce que, bon, je comprends pour les bactéries que ça s'arrête à un moment donné, mais pourquoi est-ce que pour les grands singes, par exemple, ce processus-là ne puisse pas s'enclencher, comme s'il y avait un plafond à un moment donné?
Tout simplement parce qu'il y avait des sentiments là, mais il n'y avait pas suffisant intellect. Il n'y avait pas toutes les capacités de raisonnement, toutes les capacités de connaissance et d'autres petits changements, comme par exemple la capacité de jouer, la capacité d'inventer avec une combinaison de faits autour
de nous. Donc ça dépend du cerveau, c'est ça que vous nous dites?
Ça dépend du cerveau, absolument, et ça c'est quelque chose qui est très développé chez les humains. Alors, nous pouvons dire qu'il y a une combinaison très, très magique entre la capacité de sentir, de ressentir, alors d'avoir souffrance, d'entrevoir le plaisir. Mais ça est accompagné d'une capacité intellectuelle qui nous donne la possibilité d'inventer. Si vous avez seulement le sentiment, vous n'êtes pas capable d'inventer grand-chose et de créer des réponses pour votre souffrance ou des manières accéder au plaisir. Mais quand il y a les deux, quand il y a les sentiments d'un côté et de l'autre côté, la capacité d'invention, alors vous entrez dans la vraie culture humaine.
Antonio Damasio, c'est en retournant aux formes de vie primitives, cette étude des bactéries, que ça vous a renseigné sur la nature de notre existence. Langage, socialité, savoir et raison sont inventeurs et exécutants, mais ce sont bien les sentiments qui les précèdent et les motivent, écrivez-vous. Il est là cette ordre étrange des choses, pour reprendre le titre de votre essai.
C'est ça. C'est une ordre étrange parce que normalement, notre intuition va nous dire que toutes ces grandes choses qui sont autour de nous, par exemple systèmes moraux, justice, gouvernance, sciences technologiques, tout ça vient de l'humain et que les stratégies pour construire les cultures viennent de l'humain. Nous serions les inventeurs. Mais ce n'est pas complètement vrai. La vérité, c'est qu'il y a des stratégies, par exemple comme des stratégies de coopération, stratégies de compétition et même un processus d'émotivité est déjà présent dans des créatures très très simples sans système nerveux. C'est là l'ordre étrange. C'est comme il y avait des intentions, je répète, non déclarées, qui sont là dans le vivant très très simple. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est d'établir un lien entre ce vivant très très simple, avec ses intentions non déclarées, et des vivants comme nous, qui sommes capables d'avoir des intentions conscientes très claires sur ce qui est bien ou mal, et ce que nous devons faire comme réponse aux situations de crise, par exemple.
Et alors, qu'est-ce que votre deuxième gros mot, l'homéostasie, vient faire là-dedans?
L'homéostasie, c'est cette combinaison de règles, de directions qui permet à la chimie de la vie de se continuer pendant un certain temps dans le vivant. C'est quelque chose qui a un impératif, c'est quelque chose qui ne vous autorise pas de dévier d'une certaine nombre de règles. C'est nécessaire de... Il y a deux choses qui sont très importantes dans l'homéostasie. L'une est de maintenir des variables de notre métabolisme dans certaines valeurs. Par exemple, avec nous, c'est clair que vous devez maintenir votre pression artérielle dans certaines valeurs, votre glucose dans certaines valeurs. Et si les valeurs sont au dehors d'une certaine échelle, il y a le danger de maladie, il y a le danger de malaise et évidemment de la mort. Ah, mais il y a autre chose importante dans l'homéostasie, que c'est l'impératif de maintenir un peu plus d'énergie que l'énergie qui est nécessaire pour être vivant à ce moment. C'est quelque chose que j'aime bien d'appeler en surplus. Vous pouvez imaginer quelque chose comme votre compte bancaire. Pour être sûr que vous allez, que si vous avez une émergence économique, vous pouvez répondre à cette émergence, il faut avoir un peu plus d'argent dans la banque que l'argent que vous avez nécessité aujourd'hui.
Et en quoi ça sert la perpétuation, cet argent? Puisque vous dites, ça sert à continuer dans le futur. Pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas spontanément?
Parce que sans ce surplus, vous ne serez pas capable de répondre au stress du moment. Et alors, dans une cellule, cette cellule est vivante à un certain moment, mais s'il y a un stress, s'il y a vraiment une maladie dans la vie de cette cellule, elle a besoin de plus d'énergie, et s'il n'y a pas d'énergie suffisante, alors elle va être malade ou mourir. Tout ça fait partie des conditions de notre vie, seulement humaine.
Pour continuer à vous suivre, Antonio Damasio, je vous propose un petit détour par les sciences humaines. Pendant très longtemps, les sciences sociales se sont méfiées des émotions. Voilà ce que nous dit Frédéric Lordon, le philosophe économiste, dans son ouvrage paru en 2013, La société des affects, pour un structuralisme des passions.
Pendant très longtemps, les sciences sociales se sont méfiées, à raison, de tous les discours qui véhiculaient des termes comme sentiment, émotion, de peur précisément de retomber dans une espèce de spiritualisme psychologique avec laquelle également elles avaient rompu. Il y a une double rupture qui est au principe des sciences sociales ou disons de la sociologie. Il y a avec la philosophie et il y a avec la psychologie ou avec le psychologisme, disons, avec des mésusages de la perspective psychologique. Et en effet, si c'était pour en revenir à une science sociale de l'individu ému ou des états d'âme des sujets, mieux valait s'abstenir sans doute. Et pour autant, qui ne voit que les émotions, les sentiments, etc., c'est quand même une partie intégrante de la vie humaine, individuelle, collective également, et que à négliger ces termes, on faisait l'impasse sur toute une partie du monde social historique qui restait dans l'ombre. Donc la question, en effet, était la suivante. Comment renouer avec toute cette partie de la vie humaine qui a à voir avec ce qu'on appellera génériquement les émotions, sans sacrifier l'héritage intellectuel longuement accumulé par les sciences sociales, qui ont plutôt mis l'accent, en tout cas pour certaines d'elles, sur tout ce qui déborde l'individu, tout ce qui va au-delà de lui, c'est-à-dire tout ce qu'il domine, tout ce qui est construction sociale, forme institutionnelle, rapports sociaux, structures, etc. Comment tenir les deux bouts de cette chaîne ensemble et conjoindre à nouveau deux termes qui sont réputés faire antinomie?
Alors, est-ce que vous diriez, Antonio Damasio, que votre discipline, que les neurosciences sont elles aussi trop longtemps et peut-être à tort méfié des émotions et qu'aujourd'hui il faut réussir à trouver le moyen, comme l'évoque Frédéric Lordon, de joindre les deux bouts pour comprendre d'où nous venons mais aussi vers quoi nous allons.
Oui, c'est absolument nécessaire. Si notre chemin c'est d'éviter les émotions et les sentiments, il y a une exclusion de quelque chose de très important dans notre vie. Ce n'est pas possible de le faire. Même à ce moment, par exemple, il y a un grand problème avec l'intelligence artificielle et les robots. C'est le problème de concevoir l'esprit humain comme un programme d'ordinateur. C'est quelque chose que je comprends très bien comme ces idées ont évolué, parce qu'il y a il y avait une attraction magnifique pour penser en notre esprit et penser le travail de notre cerveau dans le modèle de l'ordinateur. C'est quelque chose que, par exemple, Turing et Warren McCulloch nous ont donné, et c'est quelque chose de très important, et la science a beaucoup évolué avec cette idée, mais à la fin, au moment, nous savons très bien que le cerveau seul n'est pas capable de faire l'esprit humain. Le cerveau le fait avec une coopération avec le corps, avec une coopération avec tout le reste de l'organisme qui n'est pas neuronal. Et c'est très important. Et les sentiments nous donnent l'image directe et la preuve directe que c'est ça. Parce que ce n'est pas possible dans l'intelligence artificielle de faire une duplication de ce qui sont les sentiments. C'est possible de faire une simulation, mais il n'est pas possible de dupliquer l'esprit, il n'est pas possible de dupliquer les sentiments par une raison très simple, parce qu'il n'y a pas de vie dans ces organismes-là qui sont faits artificiellement. Il n'y a pas ces organismes ne sont pas vulnérables. Il n'y a pas de douleur ou plaisir. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de possibilité de mourir. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas possibilité de mourir. Alors, sans ça, ce n'est pas possible de créer véritablement des sentiments. Et ça met au dehors une grande partie de la vie humaine, une grande partie de ce qui est l'humain.
Et une phrase très claire dans votre livre, page 339, comme beaucoup d'autres. Pour dire les choses simplement, les cerveaux et les corps sont dans le même bain et produisent l'esprit de manière conjointe. Donc effectivement, les machines sans corps, c'est pas un problème de cerveau, les machines sans corps ne pourront pas reproduire l'esprit. Est-ce que tout cela n'est quand même pas rattaché? On a entendu Frédéric Lordon, grand spinoziste, vous-même aussi, est-ce que ce n'est pas rattaché tout de même dans ce courant de pensée? Est-ce qu'il n'y a pas là un a priori philosophique qui viendrait spécifiquement de Spinoza dans ce que vous dites? Dans quelle mesure c'est vraiment, entre guillemets, scientifique?
Non, c'est absolument scientifique. C'est pour moi, c'est très satisfaisant de trouver dans Spinoza quelque chose qui est parallèle ou très proche de ce que la biologie nous donne. Mais les idées, avec moi, certainement, c'était une question de découvrir Spinoza à un certain moment, après que j'avais découvert des choses qui viennent de la biologie. Ce n'est pas de trouver la biologie après Spinoza. Je ne connaissais pas très bien Spinoza avant d'être biologiste.
Avant d'être spinoziste.
Et spinoziste aussi. Mais non, ce n'est pas du tout un parti pris philosophique. C'est vraiment quelque chose qui vient des données de la science.
France Culture, il est 13h18 en compagnie du professeur en neurosciences et en philosophie aussi, Antonio Damasio, à l'occasion de la parution de son nouvel essai « L'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments et la fabrique de la culture ». C'est chez Odile Jacob.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Dans une société des affects, quelle place pour l'interaction sociale dans la construction de ces affects? Vous écrivez, Antonio Damasio, les sentiments ont concentré notre intelligence sur certains objectifs. Ils lui ont donné plus de portée, ils l'ont affinée au point où elle s'est transformée en esprit créateur de culture. En un sens, pour le meilleur comme pour le pire, les sentiments et l'intellect qu'ils ont mobilisés ont libéré les humains de la tyrannie absolue des gènes pour mieux les livrer au despotisme de l'homéostasie. Est-ce que ceci nous rapporte à l'idée que, certes, nous sommes peut-être guidés et en partie contrôlés par nos émotions, mais qu'il faut, à notre tour, essayer de reprendre le contrôle, ne pas se laisser déborder par ces émotions? Comment les canaliser pour qu'elles stimulent notre intelligence créatrice sans provoquer un gros court-circuit?
Bon, il y a là un mot qui, je pense, c'est un mot clé, c'est négociation. C'est vrai que notre vie affective, notre vie d'émotions et sentiments, c'est très importante, mais aussi la vie qui vient des connaissances, du raisonnement sur les connaissances, du discernement sur les données factuelles, c'est très important aussi. Et il faut toujours avoir une négociation entre l'une et l'autre. Et je pense que c'est là la vraie définition de la civilisation. Civilisation, c'est quelque chose qui vient au moment où les gens sont capables de ne pas refuser les sentiments, mais être capables de choisir entre des sentiments qui ont valeur pour le moment individuel et social, et l'adopter ou rejeter ces sentiments s'ils ne sont pas bons. Mais pour faire ça, il faut savoir, il faut avoir des connaissances, il faut les critiquer et avoir constamment cet équilibre ou déséquilibre entre qui sont les faits, par exemple scientifiques, et de l'autre côté, les réponses naturelles qui viennent parce que nous sommes émotifs en relation avec une certaine situation.
Mais alors, qui arbitre? Parce que quand il y a négociation, parfois on n'est pas d'accord. Au bout de la discussion, c'est le sentiment aussi qui va être l'arbitre et le négociateur.
Les sentiments seront capables de nous donner une première information sur la possibilité de que une certaine idée, une certaine réponse marche ou non. C'est toujours une séquence. Il y a un dialogue permanent. On peut dire que ça c'est partie de la négociation. C'est un dialogue permanent entre la réponse intellectuelle, l'invention qui vient après le sentiment. Et alors il y a un sentiment qui va nous donner une première idée si la chose marche ou non. C'est très clair dans tous les systèmes de sélection culturelle. Il y a évidemment votre phrase, la phrase que vous avez choisie très bien, entre cette tyrannie de la génétique. Il y a une tyrannie là parce que la sélection génétique n'est pas faite par nous directement, c'est les gènes qui en effet décident. Mais quand nous inventons une certaine réponse culturelle, la décision qui va nous permettre de la maintenir au cours des années ou la rejeter, ça vient d'une part de la génétique, d'autre part, ça vient de les réponses sentimentales, entre guillemets, que les
arguments. Il faut bien que quelqu'un prenne la décision pour rebondir sur la question. Qui prend la décision? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un moi qui prend la décision? Est-ce que c'est cette conscience qui émane de l'interaction des deux et qui n'existe peut-être pas en soi s'il n'y a pas cette interaction?
Il y a toujours ce dialogue, et ce n'est pas un dialogue individuel, c'est un dialogue individuel et social.
Mais il n'y a donc aucun risque que nous devenions ingouvernables?
Oh, nous sommes ingouvernables.
On l'est déjà.
On l'est déjà. On peut le voir.
Il me semble qu'aujourd'hui, pour revenir peut-être à notre situation contemporaine, par rapport à cette dualité entre l'intellect et le sentiment au sens large, qu'on a un double mouvement. D'une part, la prime donnée à l'émotion dans les réseaux sociaux, par exemple, enfin la réaction, l'activité permanente. Et d'autre part, l'intelligence artificielle, la biologie, la scientifisation de tout. Donc comme si les deux blocs se renforçaient l'un et l'autre en même temps, et peut-être ce qui manque, c'est l'interaction, la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est absolument le cas, et je pense que la bonne civilisation, le bon état de civilisation, c'est un état où cette discussion est possible, et il faut avoir les ponts entre les deux. Mais il faut surtout, comme vous le disiez très bien, il faut ne pas se trouver seulement dans un côté de l'équation. Ce n'est pas seulement l'intellect, ce n'est pas seulement l'émotion et les sentiments. Et il faut trouver toujours ce lien avec la grande vérité, c'est le fait que nous sommes vivants, mais que nous pouvons mourir.
Et les hommes et les femmes ont un rôle particulier dans cette discussion, cette interaction, la dualité homme-femme?
La dualité, oui.
Je pose la question.
Non, mais
il me semble que vous avez dit dans le livre à un moment donné que les femmes étaient peut-être moins tolérantes ou faisaient...
Les femmes moins tolérantes,
oui. Non,
pas du tout.
On va nous retrouver la page.
Non.
On va me la dire.
Ce que je disais, c'est qu'il y a évidemment des différences entre hommes et femmes, et notamment au sujet de la violence. C'est plus probable de trouver un homme violent qu'une femme violente.
Voilà. Les femmes peuvent être violentes, elles aussi. Il apparaît clairement que la majorité des hommes sont des individus bienveillants et que les femmes ne le sont pas systématiquement. On trouve de nombreux affects positifs chez les uns et les autres. Donc, pas systématiquement bienveillantes, les femmes. Pourquoi vous dites ça?
Et les hommes aussi.
Bon, d'accord.
Non. Moi, je dis rien parce que je suis assez d'accord, en fait. Le maintenant au service de l'avenir, Antonio Damasio, imaginer le futur, c'est ce qui distinguerait aussi l'humain des autres êtres vivants. Parce que vous écrivez que l'absence totale de sentiments provoquerait la suspension de l'être. Alors, en quoi le fait de réhabiliter aussi dans cette prise de décision, dans cette construction de l'avenir, l'émotion, le sentiment, nous permet d'anticiper, voire de nous projeter d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Et voilà un autre aspect de cette combinaison entre côté intellectuel et côté émotionnel. La mémoire, toute la mémoire que nous avons construite dans nous-mêmes ou dans le monde entier, à travers de l'histoire, la mémoire qu'à ce moment est au Google et dans la cloud, toute cette mémoire est utilisée pour nous, non seulement pour revenir dans le passé, mais pour prévoir le futur. Nous sommes à tous les moments capables de prévoir ce qui va se passer. Par exemple, je sais très bien ce que je vais faire après que je sors de cette interview. Qu'est-ce que je vais faire la soirée? Qu'est-ce que je vais faire demain? Mais aussi, ce que je vais faire à Noël. Et cette capacité qui est très, très humaine de imaginer le futur à de différentes distances, c'est quelque chose que nous faisons parce que ça nous protège. Parce que si je prévois très bien, avec beaucoup d'efficacité, si je prévois ce qui se peut passer, je peux éviter quelques démarches qui ne seront pas positives pour moi. Alors, ça nous donne une projection dans le futur qui est, je pense, une grande qualité des humains. Les destins, c'est peut-être la chose qui va maintenir toujours notre exceptionnalisme. L'état d'exception de l'humain vient de beaucoup de choses. Évidemment, il y a le langage verbal que nous utilisons ici. C'est absolument humain. Il y a le fait que nous avons construit des cultures extraordinaires qui les autres vivants ne sont pas capables de faire et ne le seront pas. Mais il y a aussi cette position. Si, par exemple, à ce moment, vous souffrez et vous avez de la douleur, cette douleur, comme sentiment, est enserrée dans un cadre de mémoire du passé et de mémoire du futur. Et ça, c'est vraiment absolument humain et nous donne toujours une distinction. Je pense, même si j'ai beaucoup d'appréciation pour les autres vivants, je pense qu'il n'y a aucune autre espèce qui est capable de vivre la douleur ou vivre le plaisir comme nous le faisons dans ce cadre de mémoire du passé et mémoire du futur.
Et puis vous appelez beaucoup Antonio Damasio dans ce livre à aussi faire un peu attention à tout ce qui se passe dans notre environnement immédiat, à ne pas se laisser dévorer par tout ce qui consomme de l'attention. On a envie de juste de vous demander, avant de se quitter, vous en spécialiste des émotions d'une certaine manière, comment vous gérez les vôtres? Est-ce que maintenant, à chaque fois que vous sentez une émotion arriver, vous l'analysez, vous la décryptez, vous essayez de l'encadrer, ou est-ce que vous arrivez à la vivre pleinement ou à vous laisser déborder aussi?
Bon, je pense que je suis un peu plus protégé que j'étais il y a 20 ans ou 30 ans, mais je pense que personnellement, les choses n'ont pas changé tellement. Pas dans la vie personnelle, elles changent plus quand je fais un papier scientifique, quand j'écris, alors je me regarde un peu, mais ça ne fait pas tellement différence pour moi.
Vous êtes toujours aussi calme?
Ah, je suis plus calme.
Plus calme qu'avant.
Oh, ça a changé.
Vous êtes heureux?
Oui.
On pourrait décliner toutes les émotions primaires et sociales pour reprendre vos qualificatifs, vos catégorisations. Avec vous, Antonio Dabasio, un grand merci d'être passé autour de cette grande table. L'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments et la fabrique de la culture vient de paraître chez Odile Jacob. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la grande table, Claire Maillot et Chloé Leblon pour la deuxième partie de l'émission Programmation et Préparation, Henri Leblanc et Clémence Marie avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin pour la partie culture donc de cette grande table. Perret Le Gras, la réalisation avec Élise Leu. Aujourd'hui, toutes les informations à retrouver à la page de la grande table sur franceculture.fr.